un podcast France Culture.
Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Ce ne sont pas tout à fait des graffitis, ni tout à fait des affiches, mais des feuilles blanches de format A4 avec des lettres noires écrites à la main, collées les unes à côté des autres et étalées sur les murs des villes pour former un message, une phrase qui dénonce, interpelle, juge. Sur le fond, les féministes n'ont rien inventé. Dès l'époque romaine, on grave des messages à caractère politique sur des statues, des libelles ou des graffitis, sur le mobilier urbain, si on peut dire. On attire l'attention dans l'espace public, on s'exprime comme ça. L'historienne Mireille Corbier raconte par exemple qu'après l'assassinat d'Agrippine par son fils Néron, sur une statue qui la représente, on peut lire ce reproche qu'elle lui avait adressé. « Moi j'ai honte de toi, mais toi, ne rougis-tu pas ?» Tout comme les graffitis politiques, les muraux mexicains, les slogans 68 arts, ces textes sont écrits dans l'intention de communiquer, de forcer le regard. Les collages féministes que nous connaissons sont apparus en France vers 2016, dans le sillage de la vague MeToo. Et aujourd'hui, ce mouvement a une deuxième vie, ou des prolongements, pour protester contre d'autres violences que celles faites aux femmes. C'est un reportage à Marseille d'Ilana Navarro.
Prépare un seau d'eau et la colle, c'est de la colle en poudre. Et tout à l'heure, on va mélanger au moment de coller. On prend avec nous un cabas dans lequel on met le seau. Et ensuite, on va mettre la colle dans l'eau chaude. Et on fait ce mélange juste avant de coller sur les murs. Je m'appelle Léa et je suis professeure des écoles. Donc, je viens d'une famille qui n'est pas religieuse, qui n'est pas pratiquante, c'est-à-dire qu'à la maison, on faisait vraiment rien du tout. On ne pratiquait pas les fêtes, on ne pratiquait pas le Shabbat, on ne mangeait pas kasher. Et quand j'ai eu 16-17 ans, moi, je me suis, de mon côté, beaucoup intéressée à la religion, aux textes religieux, au judaïsme. Et c'est un moment où je me suis beaucoup rapprochée du milieu orthodoxe. J'ai fréquenté ce milieu pendant de très longues années. J'adorais aller à la synagogue, j'adorais entendre les chants du rabbin. J'allais à tous les cours, j'apprenais à lire l'hébreu, je faisais toutes les fêtes et j'ai commencé à devenir très pratiquante. Et puis, en fait, l'intérêt pour l'étude de la Torah dans ce milieu-là, c'est quelque chose qui est vu avec beaucoup de bienveillance pour une jeune fille, mais simplement, au bout d'un moment, quand vous êtes une jeune fille, on vous rappelle que votre rôle sera de vous marier et de faire des enfants. On me disait, c'est bien que tu ailles au cours, c'est bien que tu saches tout ça, mais maintenant, il faudrait que tu rencontres quelqu'un. Il faudrait peut-être que tu penses à te marier, parce que tu sais, ensuite, tu vas devoir faire des enfants. Et moi, j'étais donc très jeune, j'étais en train de faire mes études et du coup, c'était une idée très lointaine pour moi. Et c'est devenu une certaine pression que j'ai commencé à plus forcément très bien vivre. Et j'ai commencé à m'écarter de ce milieu. Parallèlement, j'ai commencé à m'intéresser au féminisme et j'ai commencé à avoir un regard un peu plus critique sur ce que j'avais vu dans ce milieu. C'est-à-dire qu'à la synagogue, les hommes et les femmes, ils ne sont pas ensemble sur le même plan. Les hommes sont au rez-de-chaussée et les femmes sont à un balcon, exactement comme au théâtre quand vous êtes au premier balcon. Et les rouleaux de la Torah, le rabbin, les objets de prière, ils sont tous en bas avec les hommes. Et les femmes, on est à l'étage et on peut juste se pencher pour regarder. Mais en fait, on ne peut pas participer de manière active à l'office. Et j'ai réalisé que, en fait, moi, j'avais énormément étudié et que j'aurais été parfaitement en capacité de peut-être préparer un cours ou peut-être lire à la Torah ou peut-être faire le kiddush pour tout le monde. Le kiddush, c'est la prière qu'on fait le Shabbat, donc le vendredi soir et le samedi midi, avant le repas, et qui va consacrer le repas pour le Shabbat. et que tout ça, ça m'était complètement interdit. Donc au fur et à mesure que j'ai commencé de plus en plus à m'intéresser au féminisme, je me suis demandé comment je pourrais être utile à cette cause et j'ai rejoint les collèges féministes de Marseille. Alors les collèges féministes, c'est un mouvement féministe où on colle des slogans sur les murs de l'espace public. Donc on peint chez soi sur des feuilles A4 en grosses lettres noires des slogans. Alors les slogans, ça peut être « mon corps, mon choix »,« ras le viol », »,« viol, on ne veut plus se taire », ce genre de choses. Ou ça peut être aussi beaucoup « contre les violences conjugales », »,« contre les féminicides ». Et ce qui m'intéressait énormément, c'est que ces slogans, ils sont vraiment écrits en énormes lettres noires. On choisit des murs qui sont bien visibles et les passants, ils ne peuvent pas se soustraire aux problèmes qu'on soulève parce que vous êtes obligés de le lire. Très vite, je me suis beaucoup investie, je me suis bien intégrée à ce milieu-là et on allait coller des slogans sur les murs. En fait, ce que je trouvais incroyable, c'est que quand on est dans des collages féministes, on sort la nuit entre femmes. Déjà, la nuit, de manière générale, c'est un lieu où les femmes ne vont pas. Et moi, je sortais jamais toute seule la nuit. Et là, en fait, je me retrouvais avec d'autres femmes. J'allais coller avec les autres une à deux fois par semaine. J'ai commencé à former les nouvelles recrues. Donc, quand on forme de nouvelles recrues au collage, il faut leur apprendre les gestes du collage, comment faire les slogans, les règles de base de sécurité dans la rue, ne pas parler, être habillé discrètement, avec une tenue avec laquelle on est à l'aise, parce que ben, potentiellement, on va devoir marcher vite, se dépêcher entre deux lieux, parce qu'on évite toujours de rester trop longtemps devant l'endroit où on a collé pour éviter de se mettre en danger. Il arrive qu'une personne qui habitait l'immeuble sur lequel on était en train de coller sorte de la maison et se mette à nous crier dessus, à nous menacer de nous frapper. Voilà ce genre de choses. Ensuite, il y a eu vraiment un élément déclencheur. C'est qu'il y a un autre groupe de collage de Marseille qui a collé un slogan en centre-ville. Et ce slogan, ce collage a été vandalisé. C'est-à-dire que quelqu'un est venu et a fait des graffitis sur le collage, a barré certains mots, a réécrit d'autres choses par-dessus. Et tout autour, il y avait des signes suprémacistes blancs, une rune d'Odale et surtout, il y avait une croix gammée. Moi, je voyais plus que la croix gammée, en fait. Du coup, je leur ai dit que c'était un signe antisémite, que c'était super grave de voir ça sur un mur. Et une des colleuses m'a dit « Il faut absolument qu'on y retourne demain et que tu colles « Juive et fière » à côté de la croix gammée. Je vais venir avec toi. » Et donc, j'ai collé « Juive et fière » à côté de cette croix gammée. Et ensuite, dans toute la rue, on est allé coller d'autres slogans contre l'antisémitisme. Et on a commencé à coller toutes les deux. Et puis, peu à peu... Une autre personne a écrit, une troisième, une quatrième, et maintenant on est 11. Là, je mets mes baskets spéciales collage, parce que comme on se salit beaucoup, on a une tenue et des chaussures exprès. Et allez! C'est dans cette rue qu'on va coller là-bas. Déjà, il y a un grand mur dans cette rue. Et après, en descendant sur la rue Pierre, il y a plusieurs spots aussi. Donc,
Ok. Il y a beaucoup, beaucoup de passages.
On est des guerrières.
On y va.
So, here we go.
Here we go. Alors.
Ouais, vas-y, tu en mets juste un peu.
Ok.
Donc aujourd'hui, j'ai amené l'antisémitisme n'est pas la seule affaire des juifs, mais de tous. Vos blagues sur les juifs et l'argent ne sont pas drôles, elles sont antisémites. Juive et fière. Subir l'antisémitisme, c'est aussi avoir peur de dire ou de montrer qu'on est juif.
Tu peux mettre dans la colle là ?
En groupe, on est toujours 4 ou 5. Parce que en fait, il y a celle qui met la colle sur le mur, celle qui pose les feuilles sur le mur, celle qui repasse de la colle par-dessus. Et après, il y a une dernière qui, avec une brosse qui est un peu plus grande, qui va appuyer les feuilles contre le mur et chasser les bulles d'air et bien plaquer les feuilles pour que ça se décolle pas. Donc comme il y a 4 rôles, en général, on est 4.
Pourquoi il faut coller la nuit ?
Parce que c'est pas légal, que c'est, on est plus discrète comme ça. C'est pour être furtive. C'est notre mode ninja.
Est-ce qu'il y a une amende ?
C'est 68 euros quand on colle sur des murs basiques, mais après, si on colle sur des monuments historiques ou un tribunal, ça passe en délit. Et là, par contre, l'amende, elle monte, mais je sais pas à combien c'est.
On colle jamais sur les tribunaux ou les écoles ou les hôpitaux.
Le premier rouleau. Si les juifs contrôlent le monde, pourquoi est-ce qu'on continue de coller sur ces murs pour se faire entendre ? Si on avait en effet le pouvoir total, on ne devrait pas chercher ces moyens d'expression illégaux. Bon, les juifs contrôlent le monde, c'est la phrase la plus grossière. D'imaginer qu'il y a un complot juif, que ce sont les juifs qui tiennent la finance, le milieu médiatique, qu'ils ont un pouvoir, voilà. On l'entend pas mal, oui. Dans les milieux de gauche, je ne l'ai pas entendu sous cette forme, mais ça peut prendre la forme de l'antisémitisme est un peu moins grave parce que ce serait une forme d'anticapitalisme un peu bête et naïf qui se trompe de cible, mais que le combat est juste derrière, c'est lutter contre la finance, etc. Donc il y a une forme de déni de ce qu'on peut recevoir comme phrase antisémite, en trouvant toujours des excuses et en les désolidarisant d'autres luttes et d'autres oppressions. J'ai 31 ans. Je suis dans ce collectif depuis février dernier, donc ça fait 9 mois. Je viens d'une famille assez peu pratiquante. Il y a juste ma mère qui est juive. Mon père l'est pas. Et j'ai fait les fêtes principales, toujours avec ma grand-mère. On n'a jamais fait Shabbat. Et on avait une pratique assez hétérodoxe. Personne ne savait jamais exactement ce qu'il fallait faire. On regardait toujours sur Internet, tout le monde se disputait. Il y avait l'oncle qui voulait que ça se termine le plus vite possible. Moi, j'ai jamais connu le fait d'aller en Sina en famille. Voilà. Donc c'est une pratique qui s'est progressivement perdue, mais qui a toujours eu du sens pour moi. Et j'ai fait quand même ma bat mitzvah à 13 ans. J'ai appris à lire l'hébreu à ce moment-là. Et je tente de maintenir un lien, même maintenant, de réunir la famille, même une fois par an, juste autour d'un événement. Voilà.
Le slogan, c'est « L'antisémitisme existe et tue toujours ». À côté du slogan, on colle les noms de toutes les personnes juives qui ont été assassinées depuis 2003 parce qu'ils étaient juifs. Et ensuite, on colle la signature du collectif pour que les gens puissent nous retrouver sur Instagram et sur Twitter. Et aussi pour que les gens sachent de qui vient le collage.
Pardon ?
Sur l'antisémitisme ?
Oui.
Par le fait qu'il y a encore des insultes, des violences physiques et psychologiques et beaucoup de clichés antisémites qui circulent.
Oui, d'accord. Et quand on parle du sionisme, nous on se fait traiter d'antisémites. Ça ne vous pose pas problème?
En quoi ça nous concerne, madame?
En quoi ça nous concerne là,
par rapport au collage qu'on est en train de faire?
Vous voyez un collage qui dénonce l'antisémitisme et vous nous parlez d'Israël?
D'accord. On est juif français, on vote en France, on n'y est pour rien à ce qui se passe en Israël. On vote en France, donc on prend des décisions sur la politique française, on ne prend pas de décisions sur la politique israélienne. Donc on n'a pas à assumer la responsabilité de ce qui se passe là-bas.
Alors parlez de tous les racismes. Parlez du racisme contre les Arabes.
Mais on en parle, vous connaissez pas notre collectif? On a déjà fait des sessions contre l'islamophobie, ici, à Marseille.
Du coup, on vous invite à aller voir notre page Instagram, où sinon vous trouviez plein de collages féministes juifs Marseille. D'accord. Vous allez voir, ça va être...
Ok, merci.
Bonne soirée.
Là, on va coller. Mon père a préféré mentir à son employeur sur l'origine de son nom de famille plutôt que de dire qu'il était juif.
C'est votre père ?
Oui, c'est vraiment mon père. Bon, après, je pense que c'est une expérience qui est commune à plein de personnes. Mais il m'avait raconté ça il y a plusieurs années. Il avait menti à son employeur au cours de son travail, etc. Il avait dit qu'il était espagnol. Et après, ça m'a fait tilt, mais il m'avait aussi raconté que mon grand-père avait... quand il a rencontré ma grand-mère qui n'était pas juive, avait dit aussi à ma grand-mère qu'il était espagnol et qu'il avait mis du temps à dire qu'il était juif. Et du coup, c'est aussi quelque chose que je fais de dire ou pas, si je suis juive, hein, d'où vient mon nom, etc., selon la personne que j'en fasse. Et donc, j'avais fait ce collage déjà pour essayer de faire percuter à des personnes qui ne sont pas juives tout ce qu'on peut vivre en tant que juif quand on a un nom juif. Et... Après, je lui ai envoyé la photo pour une sorte de réparation. Je sais pas trop comment dire.
Juif est différent de colon, musulman différent de terroriste.
Bonsoir. Une question est égal barré terroriste.
Égal barré, ça veut dire que c'est différent.
C'est ce que j'ai compris aussi. C'est pour ça que je ne me suis pas emporté. Je dis, cette barre-là,
veut dire... Ça veut dire que non.
Voilà.
C'est-à-dire que c'est pas égal. C'est pas pareil.
On va s'amuser à se faire tirer dessus.
Voilà.
Voilà, j'ai bien compris, c'est pour ça. Ce qui me dérange chez moi, c'est que j'habite à côté d'un quartier, c'est les murs sont tagués. Bon, après, il y a des...
Ah bah,
il y a des ouais. messages qu'on peut tolérer quand on se dit qu'il faut s'exprimer, donc ça passe. Donc je dis rien pour ça. Mais c'est vrai que des fois, il y a des trucs qui m'insupportent. Il y a une bonne cause là, apparemment. Donc, bonne soirée.
C'est pour éviter.
Bonne soirée.
Vous en prie, bonne soirée.
Bonne soirée.
J'ai rejoint les colleuses parce que j'avais mon identité juive que je voulais retrouver. C'est-à-dire que c'est une religion qui est celle de ma famille, mais j'ai jamais été très connectée à cette religion-là. Et du coup, en fait, je voulais me reconnecter à ça d'une manière qui était militante, parce que notamment, genre, des agressions antisémites, j'en ai vécu, diverses et variées, et sous tellement de multiples formes. Ça peut être des petites choses, comme quand je dis que je suis juive et on me fait une blague sur l'argent. Et ça peut être des choses qui sont vraiment, vraiment hardcore, comme par exemple, quand j'avais 16 ans, je suis allée à Dachau avec mes parents. Dachau étant un camp de concentration près de Munich. Et j'étais dans une relation avec un gars qui était particulièrement antisémite. Et donc du coup, j'étais avec ce garçon qui m'a fait avoir cette image, cette idée d'un espèce de Roméo et Juliette très bizarre entre lui, qui était blond aux yeux bleus, et moi, qui suis juive. Et donc, il me faisait imaginer que j'étais... la petite juive dans le camp et que lui, général nazi, serait tombé amoureux de moi et qu'il y aurait une espèce d'histoire d'amour interdite à l'intérieur du camp. Et moi, à ce moment-là, je ne me rendais pas du tout compte, mais en fait, j'étais sous emprise. Mais donc, du coup, c'est bien plus tard que j'ai compris ce truc-là, que c'était que moi, je marchais dedans parce que j'avais de l'antisémitisme à intégrer à force. Et puis pareil, en vrai, pour plein d'autres agressions que moi j'ai pu subir, j'ai beaucoup été dans le déni en fait de l'antisémitisme en France, parce que j'avais l'impression que ça n'existait plus, parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, on a l'impression que ça n'existe plus, alors que pas du tout. Mais ça, c'est au fur et à mesure de me renseigner, ça, enfin, et notamment les collèges féministes juifs m'ont beaucoup beaucoup aidée vis-à-vis de ça, vraiment.
Les endroits où on colle, ça va vraiment dépendre des slogans qu'on a peints. Si on a peint des slogans sur l'antisémitisme, on estime qu'on peut les coller partout, puisque tout le monde est concerné. Par contre, si on a peint des slogans qui vont parler du sexisme à l'intérieur de la communauté juive, on va préférer évidemment les coller dans une rue où on sait qu'il y a des magasins cachers, ou une rue où on sait qu'il y a une librairie juive, de manière à ce qu'on s'assure que des personnes juives les voient, même si on fait toujours en sorte que les slogans soient compréhensibles, même pour des personnes non juives. Par exemple, à côté d'une synagogue, on a collé « Le fait de refuser de donner le get, donc le divorce à son épouse, est une violence conjugale. » On a collé « Femme juive, ta force et ta voix comptent. » À l'intérieur de la communauté juive, il y a évidemment toutes sortes de réactions. On a déjà reçu des messages de personnes qui nous disent « Vous menez le peuple juif à sa perte. » C'est comme si on avait autant de pouvoir. Et on a reçu aussi des messages de femmes juives qui nous remercient d'aborder des sujets qui sont des tabous en fait dans la communauté juive. On reçoit aussi beaucoup de messages de personnes juives LGBT qui sont très tristement isolées à l'intérieur de la communauté et qui sont heureux de voir qu'il y a des personnes juives qui pensent à elles et qui essayent de faire un peu bouger les mentalités de ce côté-là aussi. L'idée, c'est qu'il y a certains mots qui provoquent de l'effroi. Il y a certains mots qui contiennent une violence en eux, comme quand on colle des phrases sur le viol. En fait, quand les gens voient ce mot, on voit qu'ils sont saisis, que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours, c'est pas un mot qu'on entend tous les jours, c'est pas un mot auquel on a envie de penser, en fait. Et le mot juif aussi, il comporte en lui une certaine violence parce que ça reste tabou de dire qu'on est juif. Vous annoncez pas à quelqu'un que vous êtes juif de la même manière que vous lui annoncez que vous êtes italien ou espagnol ou je ne sais quoi, parce que quand vous posez ce mot sur votre identité, ça charrie un grand nombre de clichés, de préjugés, et vous ne pouvez jamais anticiper la réaction de votre interlocuteur. Parfois, il y a des réactions qui ne sont pas du tout bienveillantes, il y a des réactions de froideur, il y a des réactions de distance, et annoncer qu'on est juif, c'est aussi faire face à ça. Et du coup, quand on colle le mot « juif », et surtout quand on colle « juif et fier », ça veut dire qu'en fait, tout ça, on le jette à la poubelle et qu'on décide de reprendre complètement le pouvoir sur notre identité. Quand on est dans des milieux de gauche, on fait le constat que parfois l'antisémitisme est balayé d'un revers de la main parce que on pense que ce n'est pas du racisme mais une discrimination religieuse. Et il faut parfois expliquer aux gens que vous pouvez être juif et absolument pas du tout religieux et ne savoir absolument rien de votre identité et pourtant
subir l'antisémitisme à cause de votre nom, à cause d'un préjugé, à cause de choses qu'on va imaginer sur vous, votre vie personnelle, juste parce que vous avez annoncé que vous êtes juif. Le problème, c'est que la passivité de la gauche, qui est due à son ignorance, les trois quarts du temps, l'ignorance de l'histoire européenne de l'antisémitisme, de tous les préjugés que ça a engendrés, l'ignorance des mécanismes de l'antisémitisme dans leur ensemble et l'ignorance de l'identité juive, qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec Israël. Et toute cette ignorance, ça a créé du vide dans l'espace antiraciste. Et le vrai problème avec ce vide, c'est que pendant ce temps-là, la droite et l'extrême droite, elles se positionnent, qu'elles récupèrent complètement l'antisémitisme à leur compte, notamment pour justifier son islamophobie. En montrant systématiquement du doigt les banlieues comme étant les seuls auteurs de l'antisémitisme. Or, on sait très bien qu'il y a de l'antisémitisme de partout, dans tous les milieux sociaux, dans tous les milieux culturels. Et en fait, se servir de l'antisémitisme pour justifier son islamophobie et dire que l'antisémitisme ne vient que des banlieues, que des Arabes, c'est de la récupération à 100% et ça n'aide personne, ni les Juifs, ni les Arabes, ni les musulmans. Ma famille a été au courant que j'ai rejoint les collèges féministes de Marseille. Il y a quelques années en arrière, quand je l'ai fait. Mais ma famille n'est pas au courant que je suis désormais dans un collectif de collage de personnes juives. Parce que je pense que si ma mère l'apprend, elle meurt. De peur. Parce que je pense que si elle l'apprend, elle va énormément s'inquiéter de savoir que je peux être identifiée comme une personne juive la nuit avec d'autres personnes juives et que je colle le mot « juif » sur des murs et que je colle le mot « antisémitisme » sur des murs. Je pense qu'elle serait très inquiète de savoir ça. Donc j'ai décidé de la préserver.
C'était Les Colos Juives, un reportage d'Ilana Navarro réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci aux Colos Juives et Féministes de Marseille. Céline Paris, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Flavie Champion, notre stagiaire.